Le temps que je rejoigne l'autoroute, ma blessure à la tête me lançait férocement. Même si ça avait été l'époque des boutiques ouvertes 24 heures sur 24, je ne suis pas sûr que j'aurais osé m'arrêter. Ma chemise sur le côté gauche était raidie de sang séché. Heureusement, j'avais pensé à faire le plein. Du bout de mes doigts, j'ai tenté d'explorer la profondeur de l'entaille et en ai été récompensé par une flambée de douleur qui m'a convaincu de ne pas insister. Je me suis arrêté sur l'aire de repos d'Augusta. Il était alors 22 h et l'endroit était désert. J'ai allumé le plafonnier et vérifié la dilatation de mes pupilles dans le rétroviseur. Elles paraissaient de la même taille, ce qui m'a soulagé. Il y avait un distributeur d'encas devant les toilettes des hommes, et pour 10 cents, je me suis acheté un gros Whoopie Pie fourré de crème au chocolat. Je l'ai avalé en conduisant et mon mal à la tête s'est un peu calmé. Il était minuit passé quand je suis arrivé à Lisbon Falls. L'obscurité régnait dans Main Street, mais la filature de la Warrumbo et l'usine des plâtres US tournaient à plein régime, octant et éructant, rejetant leur fumée puante dans l'air et déversant leurs effluents acides dans le fleuve. Leurs faisceaux de lumière étincelante les faisaient ressembler à des vaisseaux spatiaux. J'ai garé la Sunliner devant la Kennebec où elle resterait jusqu'à ce que quelqu'un jette un coup d'œil à l'intérieur et remarque les taches de sang sur le siège, la portière du conducteur et le volant. Alors, on préviendrait la police. Je supposais qu'on relèverait les empreintes digitales à l'intérieur. Il n'était pas impossible qu'on les recoupe avec d'autres, relevées sur un certain 38 Special Police sur une scène de crime à Derry. Le nom de George Anderson pourrait sortir, d'abord à Derry, puis ici à Lisbon Falls. Mais si le trou du terrier était toujours à sa place, George n'allait pas tarder à disparaître sans laisser de traces. Et ses empreintes appartiendraient à un homme qui ne naîtrait que dans 18 ans. J'ai ouvert le coffre, pris la sacoche et décidé de laisser le reste. Pour ce que j'en savais, tout ça atterrirait peut-être au Jolly White Elephant, le magasin d'occasion à côté de Titus Chevron. J'ai traversé la rue en direction du souffle de dragon de l'usine, un tchouf-fouf, qui se poursuivrait jour et nuit jusqu'à ce que le libre-échange de l'air Reagan ne rende obsolète les couteaux textiles américains. Le séchoir était éclairé par une lueur blanche fluorescente provenant des vitres sales de l'atelier de teinture. J'ai repéré la chaîne isolant le séchoir du reste de la cour. Il faisait trop sombre pour lire la pancarte qui y était accrochée, et ça faisait presque 2 mois que je ne l'avais pas vue. Mais je me suis souvenu de ce qu'elle disait. Accès interdit tant que la canalisation d'égout n'est pas réparée. Il n'y avait aucun signe de carton jaune ou de carton orange, si c'est ce qu'il était à présent. Des phares illuminèrent la cour, me rendant aussi visible qu'une fourmi sur une assiette. Mon ombre, longue et maigre, bondit devant moi. Je me suis figé, tandis qu'un gros camion de transport roulait en cahotant vers moi. Je m'attendais à ce que le chauffeur s'arrête, se penche à la fenêtre et me demande ce que diable je foutais là. Il a ralenti, mais ne s'est pas arrêté. Il a levé la main pour me saluer. Je l'ai imité et il a poursuivi son chemin en direction des quais de chargement, plusieurs dizaines de fûts vides brinque-ballant sur sa remorque à l'arrière. Je me suis dirigé vers la chaîne. J'ai furtivement jeté un coup d'œil alentour et je suis passé dessous. Le cœur battant fort, j'ai longé le séchoir. Ma balafre au cuir chevelu palpitait en harmonie. Cette fois-ci, il n'y avait plus de fragments de béton pour indiquer l'endroit. Lentement, je me suis dit. Lentement. La marche est juste ici. Sauf qu'elle n'y était pas. Il n'y avait rien que le bitume sous mon pied tâtonnant. Je suis allé un peu plus loin et il n'y avait toujours rien. Le froid était assez intense pour que je voie la vapeur légère que j'exhalais. Mais une fine sueur grasse m'avait envahi les bras et le cou. J'ai avancé encore un peu, mais j'étais déjà pratiquement sûr d'être allé trop loin. soit le terrier avait disparu, soit il n'y avait jamais été. Ce qui signifiait que toute ma vie en tant que Jake Epping, de mon prix de jardinage au lycée, à mon roman abandonné à l'université, en passant par mon mariage, avec une femme foncièrement gentille mais qui avait bien failli noyer mon amour pour elle dans l'alcool, avait été une folle hallucination. Que j'avais toujours été George Amberson. Je suis allé un peu plus loin et me suis arrêté. Je respirais fort. Quelqu'un, peut-être dans l'atelier de teinture, peut-être dans l'un des ateliers de tissage, quelqu'un a crié « Va te faire en papaouté !» J'ai sursauté, et sursauté encore en entendant le rugissement de rire qui a suivi l'exclamation. Rien ici. Disparu. Ou jamais été là. Éprouvais-je de la déception, de la terreur, une panique absolue? Rien de tout cela, à vrai dire. Ce que je ressentais, c'était un soulagement insidieux. Ce que je pensais, c'était « je pourrais vivre ici, assez facilement, et même y être heureux ». Était-ce la vérité? Oui. Oui. L'atmosphère était pestilentielle à proximité des usines et dans les transports en commun où les gens fumaient comme des pompiers. Mais partout ailleurs, la senteur de l'air était incroyablement douce. Incroyablement nouvelle. La nourriture avait bon goût, le lait était livré directement à votre porte. Après une période de sevrage informatique, j'avais pris suffisamment de recul pour mesurer à quel point j'étais devenu accro à ce foutu ordi, passant des heures à lire des pièces jointes stupides et à visiter des sites internet pour la même raison qui pousse les alpinistes à vouloir escalader l'Everest. Parce que c'est là. Mon téléphone portable ne sonnait jamais, parce que je n'en avais pas, et vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que c'était. En dehors des grandes villes, la plupart des gens partageaient encore des lignes de téléphone collectives. Et est-ce que la plupart d'entre eux verrouillaient leurs portes la nuit? Que nenni! Ils s'inquiétaient d'une éventuelle guerre nucléaire. Mais quant à moi, j'étais tranquille, sachant que les gens de 1958 vieilliraient et mourraient sans qu'à leur connaissance, on n'ait jamais fait exploser de bombe A autrement que pour des tirs expérimentaux. Personne ne se souciait de réchauffement climatique, ni d'attentats suicides, ni de gratte-ciel percutés par des avions de ligne. Et si ma vie de 2011 n'avait pas été une hallucination, au fond de mon cœur je savais qu'elle ne l'était pas, je pouvais encore arrêter Oswald. J'en ignorerais l'issue finale, mais je pensais pouvoir vivre avec ça. Très bien. La première chose à faire était de remonter dans la Sunliner et de quitter Lisbon Falls. Puis rouler jusqu'à Lewiston, trouver la gare routière et acheter un billet pour New York. De là, prendre un train à destination de Dallas ou... Bigre, pourquoi pas l'avion? J'avais encore pas mal d'argent en poche et aucun employé de compagnie aérienne n'exigerait de pièces d'identité avec photo. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'allonger le prix du billet et la Transworld Airlines me souhaiterait bienvenue à bord. Le soulagement provoqué par cette décision fut si grand que mes jambes se dérobèrent à nouveau sous moi. Mon accès de faiblesse passa plus vite qu'à Derry, où j'avais dû m'asseoir, mais je m'appuyais néanmoins contre le séchoir. Mon coude, en le heurtant, fit résonner la paroi de métal. Et c'est alors que, sortant du néant, une voix s'adressa à moi. Une voix enrouée. Presque un grognement. Une voix venue de l'avenir, en fait.
« Jake, c'est toi ?»
La question fut suivie par une quinte de toux sèche en rafale. J'ai failli me taire. J'aurais pu me taire. Puis je me suis souvenu de l'importante part de sa vie que Hal avait investie dans ce projet et que j'étais maintenant tout ce qui lui restait d'espoir. Me tournant vers le son de cette toux, j'ai répondu à voix basse.
« Hal, parle-moi. Compte à voix haute.
J'aurais pu ajouter « ou continue simplement à tousser ». Il a commencé à compter. Tâtonnant du pied, je me suis dirigé vers sa voix. Au bout de 10 pas, bien au-delà de l'endroit où j'avais renoncé, la pointe de mon soulier a simultanément avancé d'un pas et heurté quelque chose qui l'a stoppé net. J'ai regardé une dernière fois autour de moi. Inspiré, encore une fois, une bouffée d'air vicié. Puis j'ai fermé les yeux et commencé à grimper des marches que je ne voyais pas. À la 4e, l'air vif du soir fut remplacé par l'atmosphère chaude et renfermée d'une pièce avec ses odeurs de café et d'épices. Ce fut du moins ce que perçut la moitié supérieure de mon corps. Autour de mes jambes, je sentais toujours la nuit. Durant peut-être 3 secondes, je suis resté là, moitié dans le présent, moitié dans le passé. Puis j'ai ouvert les yeux. Ils se sont posés sur le visage anxieux, hagard et amaigri de Hal, et j'ai mis les pieds en 2011.